Europe 1. 15h, 16h sur Europe 1.
Il est difficile de savoir ce qu'on est.
À cette hauteur, il est trop seul pour pouvoir se confier.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Tu me fends le cœur, hein?
Oh, allons, César.
À César, tu me fends le cœur.
Oh, voilà dans le mystère percé. C'est d'amour qu'il s'agit.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h. Et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte le père de Marcus, César et Fanny, l'homme de lettres qui n'a pas été que cela, mais aussi un cinéaste fasciné par le progrès, et qui lui a emboîté le pas, ou la véritable histoire de Marcel Pagnol, pionnier du cinéma parlant. En quoi le cinéma de Pagnol était-il novateur? Quel est le style Pagnol? Comment faire vivre son œuvre? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir une écrivaine spécialiste de son œuvre. Bonjour Karine Anne.
Bonjour.
Karine, on va aujourd'hui s'intéresser particulièrement au cinéma de Marcel Pagnol. Y a-t-il un film qu'il a réalisé qui vous a particulièrement marqué?
Ça, c'est toujours la question piège. Je ne saurais choisir un film, parce qu'en réalité, les dialogues de Pagnol sont tous des merveilleux. Et quand j'ai travaillé justement en doctorat sur Pagnol, j'ai vraiment demandé à intégrer à la fois ses œuvres romanesques, les pièces de théâtre et les dialogues de ses films, parce que chaque dialogue, y compris d'ailleurs, on en parlera peut-être, des films qui ont été détruits, sont de pure merveille.
Votre livre, Marcel Pagnol, Un autre regard, reparaît en poche aux éditions Litos. On va continuer à en parler ensemble, Karine Anne, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le 9 octobre 1931 et le film Marcus d'Alexander Korda sort sur les écrans de cinéma. Adapté de la pièce de Marcel Pagnol qui triomphe au théâtre depuis 1929, ce long métrage témoigne de la révolution qui secoue alors le monde du 7e art. Tendez l'oreille, si nous pouvons vous en faire écouter des extraits de dialogue à la radio aujourd'hui, c'est parce que Marcus a été l'un des tout premiers films parlant français. À l'aube des années 30, l'âge d'or du cinéma muet touche à sa fin.
Dis, Marius.
Oh.
Pourquoi tu n'es pas venu danser hier au soir?
Où ça?
À la cascade. On danse tous les dimanches.
Tu vas, toi, à la cascade?
Oui. Il y a des gens très bien.
Qui ça?
André, M. Bouzic, Victor. Je dansais toute la soirée avec Victor.
Est-ce qu'il a l'air aussi bête quand il danse que quand il marche?
Que tu es méchant. Mais pourquoi tu viens pas là-bas?
Oh, je sais pas danser.
Si tu veux, je t'apprendrai.
J'y tiens pas.
Les comédiens, c'était une condition imposée par Marcel Pagnol à l'adaptation cinématographique de son œuvre, sont ceux qui incarnaient déjà les héros de la pièce au théâtre. Pierre Fresnay joue le rôle de Marcus, le célèbre Rému campe le personnage de son père César, et Orane de Mazis, avec qui Pagnol entretient d'ailleurs une relation, prête ses traits et sa voix à celui de Fanny. L'intrigue suit l'histoire d'amour contrarié entre Marcus, qui travaille dans un bar que tient son père à Marseille, le bar de la Marine, et Fanny, marchande de coquillages sur le Vieux-Port. Le personnage d'Honoré Panis, qu'interprète Fernand Charpin, un riche maître voilier âgé de plus de 30 ans de plus qu'elle, a demandé la main de la jeune femme qui en profite pour susciter la jalousie de Marcus. Écoutez.
Il va te serrer dans ses bras, ce dégoûtant, ce voyou. Oui, oui, je sais bien pourquoi tu ris, va, mais ça n'est pas vrai.
Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai?
Tu ris parce que tu crois que je suis jaloux.
Oh, voyons, Marius, pour être jaloux, il faut être amoureux.
Eh bien, justement, je ne suis pas.
Non, non, non.
Il ne suffit pas d'avoir joué aux cachettes 3 ou 4 fois pour être amoureux.
Bien sûr, Marius.
Oh, bien évidemment. Si j'avais voulu, moi aussi, j'aurais pu t'aimer jolie comme tu es, ça n'aurait pas été difficile.
Marius a beau nier, il aime Fanny. À la fin du film, pourtant, il sacrifiera ses sentiments à son envie d'ailleurs, préférant partir voyager sur les mers et découvrir le monde que de l'épouser. À l'origine, dans l'esprit de Pagnol, cette histoire bien ficelée qui s'achève sur l'échec amoureux des deux héros ne devait pas avoir de suite. Mais son immense succès public l'a fait changer d'avis. Au cours de l'été 1931, avant même la sortie en salle du film Marcus en octobre, Marcel Pagnol écrit Fanny. Créée en décembre 1931 au Théâtre de Paris que dirige Léon Volterra, la pièce est adaptée au cinéma dès l'année suivante. Pour ce second long métrage, Marcel Pagnol souhaite une totale indépendance et quitte donc les studios Paramount, récemment ouverts à Joinville par Robert E. Kane, à qui il avait fait confiance pour produire Marcus dans le but de créer ses propres studios de production à Marseille. Ça y est, le petit garçon d'Aubagne est devenu cinéaste pour de bon. Après avoir abandonné l'enseignement pour l'écriture dramatique, après avoir écrit plusieurs pièces, dont une en collaboration avec Paul Nivoy en 1925, qui avait pour titre « Les marchands de gloire », après avoir fait « Salle comble » avec la comédie Topaz, jouée pour la première fois en 1928, puis Marcus, Marcel Pagnol délaisse le théâtre pour prêter ses textes au grand écran. Et il se lance désormais à corps perdu dans cette nouvelle aventure, en tant qu'à la fois scénariste, dialoguiste, producteur et bientôt réalisateur. En 1936, le troisième volet de la trilogie marseillaise, César, sera d'ailleurs directement écrit pour les salles obscures. Pour le dialoguiste de génie qu'est Marcel Pagnol, un tel changement de cap n'aurait évidemment pas été possible sans l'invention du cinéma parlant. Avant les autres, l'écrivain provençal a le pressentiment que cette innovation technique a, je le cite, une immense valeur artistique et commerciale. Dans son ouvrage intitulé « Cinématurgie de Paris », Marcel Pagnol racontera lui-même la révélation qu'a été pour lui la découverte du cinéma parlant. « Un soir de printemps en 1930, écrit-il, je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche, solitaire mais joyeux. » Je venais en fait de quitter Léon Volterra dans son bureau du Théâtre de Paris où une troupe admirable jouait Marcus depuis plus d'un an. Son ami Pierre Blanchard, comédien, le rejoint alors avec une nouvelle importante. « J'arrive de Londres, lui dit-il, où j'ai vu quelque chose d'admirable et d'extraordinaire, un film parlant. » Il n'en faut pas davantage pour piquer la curiosité de l'écrivain. « Tu as vu un film tout entier » demande-t-il. « Oui, oui, un film d'une heure et demie. Les comédiens parlent comme toi et moi. L'illusion est parfaite. C'est hallucinant, s'enthousiasme Blanchard. Il faut que tu ailles voir ça. Le titre, c'est Broadway Melody. Et le film passe au Palladium à Londres. » Le lendemain, Pagnol était installé au premier rang du balcon d'un immense théâtre et écoutait parler l'image de Mademoiselle Bessie Love. «
Well, if you do, all I can say is you're a rotten quitter. You love her, don't you? »
Écoutez, oh, par l'image. Oui. Dans la comédie musicale américaine Broadway Melody, réalisée par Harry Beaumont, l'actrice Bessie Love réussit sa conversion du muet au parlant. Mais pour beaucoup de professionnels de l'industrie du cinéma, comme du monde du théâtre, l'arrivée de films parlants inquiète. Même le proche ami de Pagnol, le comédien Rému, qui jouera finalement pour lui à l'écran, pense que sa carrière est menacée. Au mépris des critiques, Marcel Pagnol défend sa position dans les colonnes du quotidien Le Journal, daté du 17 mai 1930. On pouvait croire que M. Pagnol était comme un rempart contre les attaques du cinéma envahisseur, regrette le rédacteur du Chapeau de l'Article. Mais avec audace et laissant ainsi percevoir toute l'étendue de sa créativité, le dramaturge détaille ce qu'il pense être les avantages du cinéma parlant. Le journaliste rapporte ses propos. « Nous entrons dans l'ère des films parlants », affirme Pagnol. « Il reste encore des gens pour nier l'importance de cette nouvelle forme de l'art. » Selon lui, ce ne sera plus aux comédiens d'adapter le volume de leur voix aux dimensions de la salle, mais ainsi à la caméra de s'adapter aux voix des comédiens. Filmer permettra aussi de s'approcher des visages des acteurs, et tout cela montrera plus subtilement leurs émotions. Nous pourrons écrire une scène chuchotée et la faire entendre à 3000 personnes sans changer le timbre ni la valeur du chuchotement, écrit Pagnol. À ses yeux, en somme, le cinéma parlant apportera de la nuance, de la psychologie, en offrant, je cite, de jouer sans cri et sans geste avec une admirable simplicité et une mesure jusqu'ici inconnue. Enfin, le cadre de la caméra, en limitant ou en augmentant le champ de vision du spectateur, offrira d'infinies possibilités de mise en scène, tout comme la multitude de décors et de paysages dans lesquels il sera possible de tourner. Il ne s'agit donc pas simplement de faire du théâtre filmé. Le film parlant, selon les dires de Marcel Pagnol également, doit réinventer le théâtre. Au sujet de cette merveilleuse découverte, comme il la nomme, et avec son art de la prose, Pagnol conclut l'article du 17 mai 1930 ainsi. « Nous sauterons la rampe, nous tournerons tout autour de la scène, nous ferons éclater tous les murs du théâtre, nous mettrons en morceaux le décor ou l'acteur. Pour la première fois, des auteurs dramatiques pourront réaliser des œuvres que ni Molière ni Shakespeare n'ont eu les moyens de tenter. » Marcel Pagnol prêche une parole visionnaire, mais il est encore presque seul contre tous. Considéré comme un traître par les membres de la Société des auteurs dont il fait partie, il n'en modifie pas pour autant son discours. Il faut dire que le champ des possibles couvre le cinéma parlant, mais particulièrement en valeur les œuvres de Marcel Pagnol. Il leur apporte d'une part le véritable décor de la Provence et du vieux port de Marseille, plutôt que celui d'une scène de théâtre. Et surtout, en donnant de la voix aux personnages, il laisse entendre leur accent. On sait combien le phrasé et le vocabulaire du Sud importent dans les textes de Pagnol, en raison justement du lieu de l'intrigue. Le critique de cinéma André Bazin rappellera plus tard que l'accent ne constitue pas chez Pagnol un accessoire pittoresque, une note de couleur locale. Il est consubstantiel au texte et par là au personnage. L'accent, ajoute-t-il, est la matière même de leur langage, son réalisme. Dans les premières minutes du film, Margus, une scène célèbre qui se déroule dans le bar de la marine, montre ainsi César y enseigner à son fils sa recette très spéciale du piquant citron curaçao, un cocktail préparé avec une forte pointe d'accent du sud-est. Écoutez.
Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Un bon tiers de piquant. Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà.
Et ça fait quatre tiers, hein.
Et alors?
Eh bien, dans un verre, il n'y a que trois tiers.
Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers.
Eh non, ça dépend pas.
Pourquoi ça dépend pas?
Mais c'est de l'arithmétique, ça.
Ouais. Mais ne cherche pas, l'arithmétique, ne cherche pas à détourner la conversation, n'est-ce pas?
S'il donne au film de Marcel Pagnol des airs populaires, l'accent marseillais participe aussi pleinement du rythme et de la richesse des dialogues.
Dites, monsieur Scartefille, ça ne vous fait rien quand vous voyez passer les autres?
Les autres?
Les autres bateaux, ceux qui prennent le port en long au lieu de le prendre en travers.
Pourquoi veux-tu que ça me fasse quelque chose?
Parce qu'ils vont loin.
Oui, et d'autres fois, ils vont profond.
Et le soir, quand vous partez pour la dernière traversée, qui a toutes ces lumières sur l'eau, il vous est jamais venu l'envie de tourner la barre tout à coup et de mettre le cap sur la haute mer?
Sur la haute mer? Mais tu deviens fada, mon pauvre Marieux.
Pagnol n'est pas un auteur dramatique converti au cinéma, résume finalement André Bazin, mais l'un des plus grands auteurs de films parlants. Et comme je vous le disais, l'écrivain ne se contente pas d'écrire. Si pour réaliser Fanny en 1932, Marcel Pagnol a fait appel au réalisateur Marc Allégret, il acquiert très vite les compétences suffisantes pour mettre lui-même en scène ses scénarios. Tous ne sont pas inspirés de ses pièces. En 1933, il réalise son premier film, Le gendre de Monsieur Poirier, d'après une pièce de théâtre d'Émile Augier et Jules Sandeau. Au cours de sa carrière, en plus de ses créations originales, Pagnol adaptera ainsi au cinéma des œuvres de Jean Giono, de Georges Courteline ou encore d'Alphonse Daudet. À partir de romans ou de nouvelles de Giono, il écrit, produit et réalise successivement Geoffroy en 1933, Angèle en 1934, Regain en 1937 et La femme du boulanger en 1938. En parallèle, il signe aussi une deuxième adaptation de Topaz et la comédie, le Schpunz. L'humble fils de Joseph l'instituteur a plus d'une corde à son arc. Il voit loin, très loin. Après avoir fondé sa propre société de production, mais aussi une société de distribution et même des salles de cinéma, Pagnol rêve de créer un Hollywood provençal. Imaginez donc. En 1934, il a même acheté dans ce but 25 hectares de collines en surplomb du village de La Treille à Marseille, où il fait construire des décors pour ses propres films. Quelques années plus tard, il fait aussi l'acquisition du château de la Buzine, où il compte créer de nouveaux studios et un espace accessible au public. Mais la marche de l'histoire le rattrape. Qui sait ce qu'aurait donné ce projet fou si la Seconde Guerre mondiale n'y avait mis un terme ? Les événements qui secouent l'Europe puis l'occupation allemande en France empêchent Marcel Pagnol de construire sa cité dédiée au 7e art, mais il ne cesse pas pour autant de faire des films. En 1940, il réalise et produit notamment « La fille du Puisatier » dont il signe le scénario original. Un classique de Pagnol, directement pensé pour le cinéma, dans lequel on retrouve les acteurs Rému et Fernand Charpin aux côtés de Fernandel ou Josette Day, sa compagne de l'époque. C'est la dernière fois alors que Marcel Pagnol dirige son ami Jules Murer, dit Rému. La guerre n'est cependant pas sans incidence sur le déroulé des tournages. En l'occurrence, le cours de la guerre modifie même en profondeur le scénario de La fille du Puisatier. Alors que le script original prévoyait une victoire française, la défaite de 1940 oblige Marcel Pagnol à revoir sa copie. Et le film remanié sort finalement en zone libre à la fin de l'année. Marcel Pagnol, en revanche, ne fait pas de cinéma à n'importe quel prix. Durant l'été 1941, alors qu'il entame à Marseille le tournage de La prière aux étoiles, une œuvre inédite en trois volets dont il a longuement travaillé le scénario, l'occupant allemand gagne du terrain en France et menace l'aboutissement de son projet. Les lois anti-juives du régime de Vichy et la résistance qui s'organise bousculent les équipes de tournage. Le matériel nécessaire vient à manquer, à commencer par les pellicules. Et Pagnol est bientôt approché par la société continentale récemment créée par les nazis en France. La firme, dirigée par l'Allemand Alfred Greven, fait pression auprès du cinéaste pour produire son nouveau film. Refusant catégoriquement de collaborer avec l'ennemi qui veut ainsi imposer sa mainmise sur le cinéma français, Pagnol prétend alors que cela est impossible car les premières bobines de son film s'avèrent inutilisables. Pour se montrer suffisamment persuasif, il n'hésite pas à détruire à coups de hache les pellicules de La prière aux étoiles devant témoins. Par la suite, le cinéaste songe un temps à achever son film sans autorisation, mais sous la surveillance accrue dont il fait l'objet, la tâche est hélas trop rude. Alors, plutôt que de risquer de se compromettre avec l'ennemi, Marcel Pagnol préfère cesser de tourner, en prétextant qu'un accident aux yeux l'a rendu aveugle, il vend ses studios à la Gaumont. Et c'est à regret qu'il renonce à l'un des plus grands projets cinématographiques de sa vie, une sorte de deuxième trilogie marseillaise qu'il devait cette fois entièrement produire et réaliser, à la différence de la première, et qui devait mettre en scène trois personnages aussi attachants que Marius, Fanny et César. Au lieu de cela, sa carrière dans l'audiovisuel s'essouffle. Et au lendemain de la capitulation allemande, l'essentiel de son œuvre cinématographique est déjà derrière lui. Ses films ne rencontrent plus le même succès qu'avant, son château de la Buzine est à l'abandon et la disparition de son cher Rému en septembre de l'année 46 l'encourage à s'éloigner progressivement des plateaux. Le 27 mars 1947, Marcel Pagnol a 52 ans. Il est le premier cinéaste à entrer à l'Académie française. Cinq ans plus tard, il connaît son dernier grand succès au cinéma avec Manon des Sources, un long métrage en deux parties qu'il a écrit, produit et réalisé et dont son épouse, Jacqueline Pagnol, endosse le rôle-titre. Mais le futur de Marcel Pagnol est ailleurs. À la faveur de ses revers de fortune, l'homme de lettres, l'homme de mots, se tourne de nouveau vers la littérature. À la fin des années 50, après la disparition de son père et le décès tragique de sa fille Estelle, il entame un peu par hasard l'écriture d'un récit inspiré de son enfance. C'est son amie Hélène Lazareff, fondatrice du magazine féminin Elle, qui le convainc alors de rédiger ses mémoires pour ses lecteurs. De l'aveu même de Pagnol, nous devons les aventures du petit Marcel dans les collines d'Aubagne, aux côtés de son père Joseph et de sa mère Augustine, à l'insistance de la journaliste.
Et en effet, elle a commencé à me téléphoner tous les matins. Alors, est-ce que tu as commencé ? Alors, au téléphone, on peut mentir parce qu'on ne te voit pas. Alors je disais, oui, ça va à peu près, enfin. Mais combien tu en as écrit ? Oh, je dis, oh, à peine 6 pages, tu penses, je n'avais rien écrit du tout. Alors elle dit, bon, je t'envoie un cycliste, et elle raccroche. Et je vois arriver un cycliste à moustache, qui me dit, monsieur Pagnol, je viens chercher les 6 pages. Je lui dis, écoutez, mon vieux, j'ai rien fait du tout. Il me dit, mais monsieur, qu'est-ce que ça vous coûte d'écrire les 6 pages ? Il me dit, oh, il me faut... il faut 1h30, 2h, il me dit, et moi il faut que je nettoie mon vélo. Alors il rentre avec son vélo dans mon jardin, il le démonte, et moi j'écris les 6 pages. Et c'est comme ça que j'ai été amené à écrire après tous ces souvenirs d'enfance.
Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. C'est par ces mots que débute la gloire de mon père, le premier volume des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, publié en 1957. La même année paraît aussi le château de ma mère, puis 2 années plus tard, le troisième et dernier volume de ses mémoires, intitulé « Le temps des secrets ». On ne se rend plus au cinéma pour écouter et voir du Pagnol désormais, mais en librairie pour le lire. Ses œuvres ont beau être des classiques, Marcel Pagnol, lui, ne fait pas les choses comme tout le monde. Devenu un auteur de romans à succès à plus de 60 ans, il emprunte à la fin de sa vie le chemin inverse des autres en adaptant ses propres films en livres. En 1963, il publie ainsi « L'eau des collines », un roman en 2 tomes racontant la vie de Jean de Florette et de Manon des Sources. Dans les années 60, Marcel Pagnol travaille encore un peu pour la télévision, mais les deuils récents qui ont bouleversé sa vie l'incitent en premier lieu à demeurer auprès de sa famille et à écrire encore et toujours. C'en est bel et bien fini des tournages. Après plus de 30 ans de carrière, Marcel Pagnol, qui aimait rappeler qu'il était né l'année de l'invention du cinématographe par les frères Lumière, en 1895, range ses caméras. Dans cette grande aventure qui s'arrête, il n'aura pas été tout à fait seul. Le tout premier film parlant français, qui avait pour titre « Les Trois Masques », a été réalisé par André Hugon en 1929. Et les premiers films parlant français, considérés comme réussis outre ceux de Pagnol, sont signés René Clair, Julien Duvivier ou encore Jean Renoir. Mais ont-ils touché un public aussi large que ceux du cinéaste provençal? Se sont-ils adressés à des générations d'enfants, de parents, de grands-parents, en mettant en scène l'enfance, la famille, l'amitié, l'amour, la nature? Marcel Pagnol, qui avait justement entamé l'écriture du 4e volume de ses souvenirs d'enfance, disparaît avant de l'avoir achevé le 18 avril 1974. Le temps des amours, c'est son titre, paraîtra malgré tout en 1977, 3 ans après la mort de l'écrivain. Dans ce dernier volume, composé de 10 chapitres seulement, Marcel, devenu adolescent, joue les poètes. Un poète, un dramaturge, un cinéaste, un romancier. « Quand je revois la longue liste de personnages que j'ai joués dans ma vie », a déclaré un jour Pagnol, « je me demande qui je suis ». Le plus célèbre des auteurs marseillais aura peut-être été un provençal avant tout.
Europe 1, historiquement vôtre.
Karine Anne, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Marcel Pagnol était un provençal avant tout. Comment dépeint-il la Provence et ses habitants dans son œuvre? Qui est le provençal selon Marcel Pagnol?
Alors, il n'y a pas un archétype du provençal. En fait, il porte la Provence au cœur et c'est ce qui va l'inciter effectivement à écrire et à retourner tourner les films dans ses chères collines qui vont effectivement être son amour durant toute une vie. Mais Marcel Pagnol est avant tout universel, c'est-à-dire qu'il nous parle des grands sentiments humains et en réalité, sa Provence est à l'image du monde entier et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a été traduit dans le monde entier. Alors moi, je suis, comme vous, sensible au fait que les œuvres de Pagnol sont avec l'accent, ce merveilleux accent du soleil, mais visiblement, ça dépasse aussi ça, puisque dans tous les pays dans lesquels il a été traduit, il a connu effectivement le même succès. Maintenant, la Provence, chez Pagnol, c'est un pays rêvé, c'est un pays de refuge, c'est un pays imaginaire. C'est ce qui va nourrir son inspiration, je le dis souvent, c'est un topos littéraire, donc il va nourrir son inspiration. Mais c'est aussi un pays sublimé, qui n'a en réalité peut-être pas grand-chose à voir avec la réalité. C'est-à-dire que quand on écoute le style de Pagnol, quand on écoute la manière qu'il a, par exemple, de la décrire dans les souvenirs d'enfance, on se rend compte que c'est un pays rêvé. C'est aussi le pays dans lequel il retrouve ses chers disparus, il retrouve sa famille, Augustine, vous l'avez dit, son petit frère qui est mort à 30 ans, son petit Paul qui est mort à 30 ans, son petit dernier chevrier de Virgile. Et c'est pour lui, c'est un refuge, c'est un endroit où il va pouvoir les faire revivre sous sa plume et faire vivre toutes ces belles âmes qui en réalité ne l'ont jamais quitté, même quand il est monté à Paris.
Karine Anne, dans Marcel Pagnol, Un autre regard, votre livre qui vient de reparaître en poche chez Litos, vous écrivez que Marcel Pagnol défie le temps. En quoi son œuvre est-elle intemporelle ?
Je l'ai dit, elle est universelle et donc aussi intemporelle parce que en réalité, elle dépeint, elle décrit et elle s'adresse à l'éternel humain. Un père qui aime et qui perd son fils, un homme qui aime une femme, une mère qui se sacrifie pour ses enfants. Ce sont des thèmes qui sont à la fois intemporels, c'est dans tous les siècles, et universels parce que c'est dans tous les pays. Donc en réalité, Pagnol défie aussi bien l'espace que le temps.
Après l'enseignement et le théâtre, Marcel Pagnol se lance dans le cinéma et devient bien vite l'un des pionniers du cinéma parlant. Au-delà du clivage muet-parlant, en quoi sa manière de faire du cinéma est-elle novatrice ?
Alors, elle est novatrice parce que déjà, le cinéma est novateur, vous l'avez dit, mais pas parce qu'il va garder en réalité sa quintessence, c'est-à-dire qu'il va continuer d'être Marcel Pagnol, mais au cinéma. Et c'est la raison pour laquelle il reprend, comme vous l'avez souligné, les acteurs de la pièce Marius pour tourner le film. Et il y a d'ailleurs des histoires absolument savoureuses avec Hollywood et Rému, parce que Rému avait une voix énorme, une voix de stentor comme ça, et les ingénieurs du son enlevaient les casques dès qu'ils commençaient à parler, en disant « mais non, c'est trop fort, il faut qu'il parle moins fort ». Et Pagnol, un jour, a dit « écoutez, voilà, c'est très embêtant, parce que vous, je peux vous remplacer, mais je ne remplacerai pas Monsieur Rému ». Et en fait, il a imposé ses acteurs, alors qu'ils n'étaient pas du tout des acteurs de cinéma, et avec le bonheur, évidemment, que l'on sait, puisqu'on les retrouve dans le film, et qu'ils sont merveilleux, puisqu'ils ont incarné les personnages sur la scène avant de les incarner à l'écran. Mmh.
Mais Marcel Pagnol est un touche-à-tout qui va passer du théâtre au cinéma. Et vous écrivez, Karine Anne, que ce qui l'anime et qui le fascine avant tout, c'est le progrès.
Oui, vous avez raison de le souligner, Stéphane. Pagnol disait, quand on lui demandait qui auriez-vous aimé être, il répondait n'importe qui au XXIe siècle. C'est un homme extraordinairement curieux, un touche-à-tout, oui, mais de génie. Qui avait aussi une âme d'ingénieur, il a construit la Topazette, qui était curieux au point d'écrire un livre sur le masque de fer, il avait une curiosité absolument insatiable dans tous les domaines, et c'est vrai que le cinéma, étant donné qu'il en était à ses balbutiements, a été pour lui un terrain de jeu formidable dans lequel il a pu effectivement créer et se réaliser.
Dans les années 40, sous l'occupation, Marcel Pagnol entame le tournage de La prière aux étoiles, une œuvre prévue en 3 volets. Mais sous la pression de l'occupant qui souhaite produire le film et en faire un instrument de propagande, Pagnol détruit ses pellicules. Quel était le scénario de ce film ? Pourquoi est-ce qu'après la libération, Marcel Pagnol ne reprendra jamais ce projet ?
Alors vous me faites très plaisir de parler de ce film parce que c'est un film que j'adore, que je n'ai pas vu mais dont j'adore les dialogues. C'est un film extraordinairement personnel en fait de Pagnol et c'est peut-être la raison pour laquelle il ne l'a pas repris parce que d'abord c'est quelque chose qui est intimement lié à sa relation avec Josette Day dont il était éperdument amoureux et ils se sont séparés donc il n'a pas envie de reprendre ce rôle mais c'est un film qui décrit l'histoire d'un homme qui regrette en fait l'amour qu'il aurait pu avoir quand il n'était pas encore connu. Et Pagnol disait des fois j'aurais aimé que les femmes qui aujourd'hui m'aiment passionnément aient pu m'aimer passionnément quand je n'étais encore pas le cinéaste que je suis parce qu'aujourd'hui parce que je les ai vues nues un instant il faudrait que je les habille toute une vie. Et c'est vrai qu'il avait peut-être ce regret. Il a énormément évoqué les affres peut-être de la célébrité, le fait que quand on est connu, quand on est célèbre, on peut avoir du mal à faire confiance, à avoir du mal à penser qu'on puisse être aimé pour soi. Et ça, il l'exprimait dans la prière aux étoiles avec cette quête magnifique de l'amour. Il avait dans ses dialogues un passage merveilleux qui dit « Parce que je suis une eau sur qui rien ne se penche, une source sans image qui attend son reflet ». Et je trouve que ça, une personne qui attend l'amour, qui espère l'amour, cette phrase-là est absolument magnifique.
Et d'ailleurs, une partie de La prière aux étoiles devait être tournée à Paris, une grande première pour le Provençal Marcel Pagnol.
Oui, c'était assez rare, mais comme il voulait tourner chez Léon Volterra avec à Luna Park, il fallait effectivement tourner à Paris. Ça a été un tournage vraiment difficile et sa relation avec Josette Day commençait d'être compliquée. Ça a été une page qui s'est tournée en fait, La Prière aux Étoiles, et quand il l'a détruit, quand il a détruit les pellicules, il n'a pas souhaité y revenir après. Et je pense que c'est vraiment très dommage. Et j'invite les gens qui nous écoutent à aller vers le texte qui est publié et qui est vraiment très beau.
Carina, Marcel Pagnol a créé de nombreux personnages ancrés dans l'imaginaire collectif. Parmi les plus connus, il y a bien sûr César, Margus ou Fanny. Un mot justement sur les femmes dans son œuvre auxquelles vous vous intéressez dans un chapitre intitulé « Et Pagnol créa la femme ». Comment la gente féminine est-elle dépeinte par Pagnol ?
Alors en fait, contre toute attente, on voit souvent des gens pour caricaturer Pagnol en mâle méditerranéen. En fait, c'était quelqu'un qui portait vraiment la liberté des femmes. Quand on étudie l'œuvre de Pagnol, loin d'être cet auteur qui condamne une femme parce qu'elle tombe enceinte en dehors des liens sacrés du mariage, puisqu'à l'époque, il faut quand même se remettre dans le contexte, c'était effectivement la grosse honte, c'était l'opprobre qui tombait sur toute une famille. Et en fait, Pagnol, lui, réhabilite ces femmes, parce que justement, elles aiment, elles ont aimé, et elles se sacrifient encore par amour, puisqu'elles vont se sacrifier pour l'enfant à naître. Et en réalité, on a cette clé dans la trilogie dont vous avez parlé. Quand Honorine suggère à Fanny de ne surtout rien dire à Panis du fait qu'elle est enceinte pour qu'il l'épouse, et Fanny lui dit mais il serait là le vrai déshonneur. Et en fait, chacune de ces héroïnes, le thème de la fille mère est un thème très cher à Pagnol. Quand il l'emprunte à d'autres auteurs, je pense à Zola pour Naïs ou je pense à Giono pour Angèle, c'est encore ce thème que l'on retrouve pour la bonne raison que sa propre mère, effectivement, avait vécu ça. Et ça, c'est peut-être une douleur que Pagnol a gardée en lui et qu'il aura développée tout au long de son œuvre. Et en réalité, il réhabilite les femmes pour montrer à quel point elles sont courageuses et magnifiques.
Mmh. Est-ce qu'à l'inverse, il avait quel est l'archétype du personnage masculin chez Pagnol ?
J'ai coutume de dire qu'on a les héros et les personnages. Alors les personnages, ce sont escarte-figue qui vont jouer aux cartes, faire rire. Et les héros, ils sont porteurs de la dramaturgie, ils sont porteurs de cette intensité dramatique qui frémit au cours de toute son œuvre. C'est César, effectivement, dans sa douleur de perdre son fils, le puisatier dans sa douleur de perdre sa fille. On remarque aussi au passage que ce sont souvent des cellules monoparentales comme l'était son père lui-même, Joseph. Et là, effectivement, ce sont des gens qui se battent pour l'honneur, qui sont dépositaires des grands sentiments, mais aussi des grandes souffrances, mais qui ont vraiment... comment dirais-je, le sens de l'honneur, mais de ce bel honneur, pas cet honneur imbécile qui peut pousser à des débordements. Cet honneur, ce sens de la vie, ce sens du cœur, oui, ils en sont tous dépositaires.
Vous avez consacré votre thèse de doctorat au style Pagnol. Quel est-il ? Quelles en sont les principales caractéristiques ? Vous parlez d'une légende selon laquelle son écriture relevait de la facilité.
Eh bien, oui, parce que compte tenu justement de l'épisode que vous avez narré tout à l'heure avec Hélène Lazareff, où il a effectivement produit 6 feuillets qui ont été publiés dans le journal Elle pour les vacances de Noël. Sauf que quand on regarde ces feuillets et que l'on les compare avec, en effet, le début des souvenirs d'enfance, on se rend compte que ça n'a plus rien à voir. Et en réalité, le style de Pagnol est un style d'épure, c'est-à-dire qu'au départ... Il vénérait Edmond Rostand, il aurait aimé écrire en vers, et il a énormément travaillé pour arriver justement à un style dépouillé, où tous les mots sont très simples, mais où les images, les métaphores parcourent le texte et nous abreuvent de sensations, de sensualité et de beauté à chaque instant. Et on le voit avec les manuscrits. C'est vraiment une écriture, un travail de l'épure, Pagnol.
Je l'ai raconté, Marcel Pagnol a tout fait. Il a été dramaturge à succès, cinéaste novateur, écrivain, membre de l'Académie française. C'était avant tout un immense travailleur, non ? C'est cette image que vous voudriez donner de lui ?
Oui, bien sûr, parce que je crois que le talent sans travail n'amène à rien, tout comme peut-être le travail sans talent, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on le voit dans sa production, hein, aussi bien les œuvres cinématographiques que l'écriture. C'est aussi quelqu'un qui s'est quand même essayé à beaucoup de genres différents. C'est pas si courant. On le retrouve chez Hugo notamment, puisqu'on a à la fois des mémoires, on a des pièces de théâtre, on a le cinéma avec les dialogues. Ce sont des styles effectivement tout à fait différents, des romans. Mais c'est oui c'était un travailleur infatigable, mais je pense qu'il n'avait pas non plus à se forcer, parce que c'est avant tout un être de passion, Pagnol.
Est-ce qu'il est encore étudié à l'école ? Est-ce que l'université, les chercheurs continuent de s'emparer de son œuvre ?
Alors écoutez Stéphane, je suis très fière de vous dire qu'il fait encore partie des 50 auteurs les plus étudiés en France aujourd'hui, pour la bonne raison que les souvenirs d'enfance, et il en avait tout à fait conscience et ça l'amusait puisque son père était instituteur, sont une mine de dictées. Donc, puisque la dictée a été réhabilitée, on utilise beaucoup les souvenirs d'enfance, notamment dans les classes de 6e. Alors évidemment, toute la partie nostalgie échappe aux enfants qui découvrent les souvenirs d'enfance. Il y a plus un phénomène d'identification avec ce petit Marcel qui court dans les collines avec son petit ami Lily. Mais oui, ce sont des textes qui peuvent être tout à fait accessibles et qui procurent déjà de grandes joies littéraires à un public beaucoup plus jeune, oui.
Carinane, vous écrivez que découvrir Pagnol, c'est aller à la rencontre de soi-même. Expliquez-nous cela.
C'est aller à la rencontre de soi-même parce que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui s'adresse au grand sentiment humain et qui nous convoque dans ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre attachement à notre famille, à notre terre, à notre pays, à nos valeurs. Donc c'est quelqu'un effectivement qui va nous chercher dans ce qu'on a de plus profond et probablement de plus intime. Donc et j'ai coutume aussi de dire que Pagnol est un auteur qui rend heureux. Parce que quand vous terminez un film de Pagnol ou quand vous refermez une œuvre de Pagnol, vous avez ce soleil et cette vie qui circulent en vous.
Pour terminer, comment découvrir Pagnol d'après vous ? On commence par ses livres ou par son cinéma ?
Ah, oh, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai deux enfants, je leur ai fait découvrir les deux. Et ça va peut-être vous étonner, mais moi, je leur ai fait découvrir Pagnol par Topaz. Parce qu'en réalité, ces enfants dans la classe qui font des blagues et Panico, tu l'as mangé l'haricot, ça fait rire les enfants. Donc, c'est très accessible. Mais pour faire découvrir Pagnol, alors si on est adulte, on peut prendre n'importe quelle œuvre. Et j'allais dire, ne pas se priver de ce mouvement de va-et-vient justement entre les films, parce que les films sont aussi magnifiquement traités par Rému, donc on a aussi cette magie-là, ils ont été restaurés en plus, donc le son est parfait. Et je pense que vraiment, on peut le découvrir, il y a beaucoup d'entrées dans l'œuvre de Pagnol, il faut se priver de rien.
Merci beaucoup, Carinane, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Marcel Pagnol, pionnier du cinéma parlant. Je rappelle que Marcel Pagnol, Un autre regard, le livre que vous avez consacré à cet incontournable écrivain, dramaturge et cinéaste français, vient de reparaître en poche aux éditions Litos. Et je précise également que votre dernier roman, Le Lys d'or, est publié aux éditions du Rocher.
Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.